Bonjour, pour ce parcours de témoin, je reçois aujourd'hui Dominique Steller, qui est professeur de management à l'école de management de Grenoble et directeur de la chaire de la paix économique, mindfulness et bien-être au travail. Bonjour Dominique Steller.
Bonjour.
Alors vous êtes à Grenoble, donc on fait cet entretien par téléphone, puisque c'est quand même un petit peu compliqué de venir à Paris quand on est prof, juste pour trois quarts d'heure d'émission. Et je vous remercie d'être là. Donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Osons la paix économique, de la pleine conscience au souci du bien commun » aux éditions De Buck Supérieur. Donc, il est paru il y a un an à peu près.
C'est ça, oui, en septembre 2017, je crois.
Préfacé par Mathieu Ricard.
Oui.
Et vous ouvrez ce livre en rappelant la vague de suicides qui a eu lieu il y a quand même plus de 10 ans chez un gros opérateur téléphonique. Et très vite, vous dites que c'est lié à la guerre économique. Alors, qu'est-ce que la guerre économique ?
Alors, d'un point de vue académique, la guerre économique est quelque chose de très compliqué à définir. J'ai des collègues qui s'y sont attachés, qui en ont fait tout un ouvrage. C'est assez complexe quand on rentre dans le champ académique. On va dire pour nous aujourd'hui que la guerre économique, c'est cette ambiance d'hyper-compétition, d'hyper-agressivité économique qui conduit à tout un ensemble de dégâts. Les dégâts qu'on va retrouver au point de vue humain, c'est les premiers que vous citez, hein, les dégâts du point de vue humain. Moi, ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille sur les aspects de stress et de souffrance au travail. Donc on les trouve au niveau humain, on les trouve au niveau relationnel. Je pourrais dire, là, c'est un peu lapidaire, mais je pourrais dire que l'entreprise d'aujourd'hui a tendance à rompre le lien social plutôt qu'à le créer. Et on les trouve au niveau sociétal et économique, et écologique, pardon. Par de la pollution, par de la consommation exacerbée des ressources, etc. Donc cette guerre, c'est vraiment ce qui, à un moment donné, fait que cette entreprise qui a été conçue dans notre passé lointain comme étant un moyen de faire vivre correctement la cité, s'est transformée en quelque chose qui a tendance à la dégrader.
Et alors, ce changement, il date de quand ? D'après vous, à peu près.
Ça, c'est aussi une sacrée question. Alors, je vais le caler moi, parce que c'est à peu près ce qu'on fait ici quand on en discute. On le cale dans l'épanouissement économique qui débute au XVIIIe siècle. Certainement qu'il y a des indicateurs qui seraient plus tôt. Nous, on va le caler à ce moment-là, un moment dans lequel il va vraiment y avoir une utilisation au sens instrumental de la chose, des biens et des personnes, ou des ressources et des personnes, plus qu'une tentative d'épanouissement à travers le travail.
Mais alors pendant des années, des dizaines d'années, voire plus d'un siècle, ça a convenu. Enfin, je dirais que c'était la contrepartie douloureuse, peut-être, mais pas forcément toujours ressentie comme ça par les gens, d'un bien-être général, d'un développement économique, en tout cas de nos sociétés occidentales. Mais il y a eu une bascule à un moment.
Il y a certainement une bascule. En fait, si on remonte dans ce temps, admettons qu'on remonte dans 100, 150 ans et qu'on regarde l'évolution, les effets ne sont pas tous les mêmes au même moment. Je vais revenir assez vite à ceux qui nous concernent aujourd'hui, mais je peux imaginer, et on l'oublie des fois trop souvent, je prendrai un exemple tout à l'heure, qu'il y a une centaine d'années, les problématiques de pénibilité au travail n'étaient pas du tout abordées, et pourtant, si je travaillais dans le nord de la France, dans une mine, c'était certainement des choses qui étaient d'une extrême violence. Simplement, comme on focalisait, ce qui est des fois encore le cas aujourd'hui, sur la représentation des bénéfices de l'activité économique plus que sur sa représentation sociétale, ben on regardait dans les bénéfices, et encore une fois, je le redis, c'est ce qu'on continue de faire, on regarde dans les bénéfices uniquement ce qu'ils apportent d'un point de vue richesse financière, on oublie dans ces bénéfices de regarder tout ce qu'ils provoquent comme maléfices, si je m'amuse à jouer des mots.
Alors, en parlant de guerre, donc la guerre, c'est quelque chose que vous connaissez presque intimement, puisque vous avez été pilote.
Mmh. Hein ? Pilote de chasse, oui.
Exactement, pilote de chasse. Et à un moment, dans votre livre, vous dites, de toute façon, on s'entraîne, mais à un moment, il faut qu'on attaque, quoi. Il faut qu'on passe à la réalité du combat.
Voilà. Alors ça c'est quelque chose qui est assez... important pour moi, à différents points de vue. Le premier, je ne suis jamais allé à la guerre au sens premier du terme. En fait, je n'ai jamais été qu'un pilote à l'entraînement, si je peux le dire comme ça, si je me compare à certains de mes amis qui, eux, sont allés dans des conflits. Mais la raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet-là, où j'ai commencé à présenter de temps en temps dans mes interventions et donc dans ce livre, c'était pour faire face à une critique assez régulière qui tournait autour de « l'homme est à loup pour l'homme » ou « qui veut la paix prépare la guerre ». Qui sont pour moi des motos qui ont été utilisés dans notre culture, y compris dans notre culture économique, pour tenter de justifier quelque chose qui serait de l'ordre d'un assez naturel, d'une violence spontanée, d'une violence naturelle, vis-à-vis de laquelle il n'y aurait pas grand-chose à faire, puisqu'elle est, elle est en nous comme ça, et qui viendrait dire, bah, après tout, si on combat, si on crée un peu de souffrance, c'est plus tard pour notre bien. Et je me suis levé une première fois un jour quand un monsieur dans une conférence était assez virulent sur le sujet de « mais qui veut la paix prépare la guerre » en me disant « mais vous savez, au bout du compte, je me suis préparé moi à cette guerre pendant plus de 6 ans. Et au bout de 6 ans, la seule chose que j'en ai retenue, c'est à m'être préparé pendant des années. Je finissais, et entre parenthèses, j'en avais pas une grande gloire, j'en avais plutôt honte au bout d'un certain temps, par me dire « mais à me préparer à la guerre, la seule chose dont j'en ai maintenant, c'est d'y aller, c'est de faire quelque chose ». Je ne peux pas imaginer un être humain qui, pendant autant de temps, là c'était 6 ans, s'entraîne à une pratique, fait quelque chose ou s'entraîne à pouvoir faire quelque chose, à qui on dirait au bout du compte, ben, jamais tu ne feras. Je n'imagine pas un musicien qui s'entraîne chez lui ou avec des amis pendant 6 ans à faire de la guitare pour qu'au bout du compte on lui dise « ah non, mais ton envie d'aller sur scène n'existera pas ». Et donc je concluais avec ce monsieur dans cette conférence en lui disant « vous savez, la seule chose que j'ai retenue, c'est à m'entraîner à la guerre ». Je ne suis pas devenu quelqu'un qui est prêt à la paix, je suis devenu quelqu'un qui est prêt au combat. Et ce parallèle, je le faisais avec ce qui se passe dans les entreprises. Je vais prendre une analogie. C'était il y a un peu plus d'un an, dans une grande convention, des 200 top managers d'une multinationale, avait été invité dans cette convention un explorateur, quelqu'un qui a une reconnaissance assez forte au niveau international aujourd'hui. Il était présent, bien sûr, pour faire valoir les valeurs qu'il présente de combat, de pugnacité, de résistance face à l'effort, toutes ces valeurs que l'entreprise voulait promouvoir. Et dans sa présentation, ce monsieur, à un moment donné, va dire la chose suivante, il va dire « vous savez, en fait, être numéro un n'est pas une option, c'est la seule option ». Et donc, cette expérience personnelle d'un officier pilote de chasse, j'ai voulu l'utiliser pour dire « ça n'est pas vrai ». Ce que vous dites là n'est pas vrai. Si je me prépare au combat, je vais uniquement être prêt à attaquer. Si je pense que dans la vie, il n'y a comme option que celle d'être le premier au détriment des autres et que c'est le seul moyen que je vais survivre, ça n'est pas vrai. Les anthropologues l'ont montré, les psychologues le montrent, les sociologues le montrent. Nous ne sommes pas les êtres humains, des êtres qui sont par nature agressifs et qui éventuellement de temps en temps seraient prêts à collaborer. Nous sommes au contraire des êtres collaboratifs et bienveillants. Qui ont un potentiel agressif. Et tant mieux que les deux soient présents. Il est nécessaire que je sois capable d'avoir ce potentiel si jamais, à un moment donné, dans ma vie, je me fais agresser. Mais ce n'est pas ma nature. Et c'est ça qu'on a voulu nous faire croire dans ce modèle économique qui, petit à petit, les années, voire les siècles s'écoulant, tentait de trouver des justifications pour pouvoir faire souffrir une grosse partie de la population au profit d'une toute petite partie.
Et donc, à l'école de management de Grenoble, c'est ce que vous enseignez ? À ne pas être numéro un, à ne pas faire la guerre ?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut imaginer ce que c'est que dans une école de management de démarrer un centre de recherche sur la paix.
Oui, oui, vous allez nous raconter justement.
Les combats que ça peut provoquer. La chance que j'ai eue, c'est que cette école-là était prête à m'entendre. C'est que cette école-là a laissé un espace pour que ça ait lieu. Parce que dans bien d'autres, il est probable que ça n'aurait pas pu avoir lieu. Ici, c'est une école, et c'est certainement ça ma chance, c'est une école qui, depuis sa création, a été centrée sur toutes les formes d'innovation, donc y compris l'innovation sociale. Et quand j'ai présenté ce centre de recherche, le projet du centre de recherche qui parlerait de pleine conscience, et vous entendez bien que derrière, puisque vous êtes une radio protestante, que spiritualité n'est pas loin, donc quand je parlais de pleine conscience et de paix économique, on m'a dit ce qu'on m'avait dit pour d'autres projets, pourquoi pas ? Avançons, voyons ce que ça donne. Raconte-nous ton histoire et puis on verra comment ça bougera. Mais donc c'est pas très spontané. Alors, ce qu'on tente d'enseigner ici, je vais le réduire un petit peu par rapport à toute l'ampleur que vous lui donnez, c'était de dire, est-ce qu'on peut imaginer dans un système d'enseignement, qui ici forme donc des managers, de remettre la valeur du service au centre du contrat. Du service, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tenter d'avoir des futurs managers qui vont se percevoir non plus comme des gens qui seront de plus en plus en pouvoir sur quelque chose, en pouvoir voulant dire aussi en richesse, mais des futurs managers qui vont se percevoir au service. Et que cette notion qu'ils vont avoir de service deviendra ou redeviendra, puisque j'ai pas l'impression d'inventer quelque chose du tout, redeviendra une question très honorable et très centrale de ce qui va réellement conduire à mon épanouissement. Et cette question très centrale est, je vais conduire mon épanouissement à travers cette mise en relation, cette mise au service des autres le plus largement possible. Et plus je serai haut dans la hiérarchie, plus ce que je vais devoir prendre en conscience, c'est plus haut, veut dire, avec beaucoup plus de services à délivrer autour de moi. C'est vraiment ça qu'on tente d'enseigner. Alors, il y a dans notre discours quelque chose de plus vaste, et j'essaie d'œuvrer autant que possible dans tous les secteurs qu'on abordera, mais qui est de dire, c'est très bien de le faire dans l'enseignement supérieur, mais les étudiants qui arrivent ici, les plus jeunes doivent avoir une vingtaine d'années. Alors, au bout de 20 ans, ils ont largement eu le temps d'intégrer tout un ensemble de concepts ou de visions de la vie qui ne sont pas tout à fait ceux que nous promouvons.
Donc ils ont déjà été déformés, en fait.
Ils ont déjà, d'une certaine manière, été déformés. Notre question étant, est-ce qu'à un moment donné, on sera capable, nationalement, on sera capable collectivement de dire nous voulons un autre pacte éducatif pour nos enfants et nous démarrons ça dès la maternelle pour faire ce qu'ont fait les Finlandais. C'est-à-dire, dans l'Education Act de la Finlande, il y a quelque chose qui dit nous voulons faire de nos enfants des enfants épanouis pour qu'ils aient une possibilité un jour de devenir des adultes épanouis. Chez nous, ça n'est pas écrit. Mmh. Mais chez nous, mon impression serait plutôt quelque chose qui serait de l'ordre, nous voulons faire de nos enfants des adultes épanouis. Il manque une case, un milieu.
Mais nous, on essaye d'en faire des bons républicains.
Tout à fait. Et on essaye de les façonner en bons républicains. Et il y a dans cette tentative-là beaucoup de belles choses. Et il y a dans cette tentative-là quelque chose pour moi qui est une erreur fondamentale. C'est que les grandes valeurs humaines, dont celle de bienveillance et de collaboration, sont complètement oubliées.
Alors, je vais vous proposer une courte pause musicale. J'ai choisi pour vous Pink Floyd, Money. Reçoit aujourd'hui dans ce parcours de témoin Dominique Steller, qui est professeur de management à l'école de management de Grenoble et directeur de la chaire de la paix économique, mindfulness et bien-être au travail. Alors Dominique Steller, maintenant que nous avons parlé de guerre économique, parlons un petit peu de paix économique. Vous dites la paix économique, c'est une espérance, c'est pas un résultat, c'est un chemin.
C'est un point important et c'est un point assez compliqué dans notre culture, au-delà même de la culture de la culture économique. Nous sommes dans une culture qui a été fortement influencée par la pensée aristotélicienne, dans laquelle vous avez un ensemble de règles logiques, et l'une de ces règles, c'est le tir exclu. Et dans cette règle du tir exclu, qui nous dit donc qu'une chose peut être soit blanche, soit noire, mais pas les deux en même temps, cette règle, petit à petit, nous a permis de poser un mode de fonctionnement que je vais qualifier d'ingénierie, un mode qui dit ben, je vais projeter sur le monde des choses qui peuvent exister et je vais tenter de les construire. Et ce chemin-là se faisant, nous en sommes arrivés à être des experts du but à atteindre. Malheureusement, dans ce qu'est un être humain et dans ses modes de fonctionnement, on se rend compte que ce but à atteindre, pour pouvoir rester dans une paix de l'âme, si je peux le dire comme ça, notre dérive principale pour contrôler les logiques qui sont en arrière-plan, c'est de tenter de prendre contrôle pour atteindre le but. Je vous donnerai deux exemples ensuite. Et atteindre un but, hein, vous a permis d'avoir tout ce qu'on a autour de moi. Je suis là dans un bureau avec des ordinateurs, avec de la lumière, avec de l'électricité. Bien entendu que cette démarche, je ne suis pas en train de dire elle est mauvaise. Ce que je suis en train de dire, il lui manque parfois un angle, il lui manque un éclairage. Et la question devient, est-ce que si je reste dans une posture de l'espoir, puisque vous êtes parti sur ce chemin-là, si j'espère qu'advienne quelque chose sur quoi je n'ai pas de prise, comment est-ce que je vais vivre le temps qui s'écoule entre aujourd'hui et le moment où cet espoir devra se mettre en œuvre, et comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec cette vie-là? Mon propos à moi est de dire, si c'est ça mon chemin, il va se construire autour de la souffrance, il va se construire autour de la difficulté, de l'angoisse, de l'anxiété, de ne pas atteindre ce que j'ai prévu d'atteindre. Alors, je vais prendre maintenant un exemple assez concret. Si quand je suis petit, je dis à mes parents, je veux devenir médecin, vous allez voir, l'exemple n'est pas anodin, d'autant plus si eux sont médecins, il y a un fort risque à parier que la façon dont on va orienter mon éducation sera sur ce chemin-là, donc vers une scolarité qui devrait être plutôt bonne pour faire des écoles préparatoires qui sont plutôt des grands niveaux. Et si malheureusement, à un moment donné de ce parcours, quelque chose en moi, quelque chose de profond en moi dit « mais au fond, ce n'est pas ça mon inspiration profonde », il va être très difficile de revenir sur cet engagement, qui pour celui-ci est un engagement familial, parce que le but a été posé, et qu'une fois, mon fils, que tu m'as dit que tu allais atteindre ça, tu n'as plus le choix de revenir en arrière. Tu dois faire ce que tu as dit que tu allais faire. Baser mon travail ou baser ma vie sur l'espérance, c'est vraiment plutôt garder en moi quelque chose, garder en moi cette foi en l'humanité qui dit « je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir construire chemin faisant, je vais pouvoir m'ajuster chemin faisant pour petit à petit aboutir à quelque chose que je ne connais pas encore, mais qui prendra en tout cas une forme de réalité, puisque pouvant éclore dans un moment, en fonction d'un contexte, en fonction de personnes et de situations. » Là aussi, je vais prendre un exemple. Alors, je vais prendre deux exemples, si vous le permettez.
Oui, oui, allez-y.
Un petit exemple rapide, quand j'étais pilote de chasse, qui schématisera bien les choses, et ensuite, je l'amènerai à un autre endroit plus compliqué dans le monde du travail d'aujourd'hui. Quand j'étais pilote de chasse, et qu'on apprenait à se poser sur porte-avions, alors ça date un peu, peut-être que les procédures ont changé, mais l'officier de pont d'envoi, il nous disait, ton but, c'est de te poser sur le porte-avions. Mais, il va falloir oublier ce but. Oublier parce que sinon, je peux faire une parenthèse là, oublier parce que sinon, ce porte-avions va devenir ton espoir. C'est pas comme ça qu'on vous le disait, mais va devenir ton espoir de j'espère que je vais réussir à me poser sur cet endroit. Pourquoi il nous disait oublier? Il le disait pour des raisons techniques, parce que si on veut regarder le porte-avions, on va être obligé de pousser sur le manche d'un avion qui vole à vitesse lente, donc qui est très cabré, et on va avoir une pente qui nous ferait tomber avant le porte-avions. Mais il le disait aussi pour des raisons psychologiques. Si tu commences à trop regarder le porte-avions et à le fixer, il est tout petit, il bouge, tu vas avoir peur, tu vas t'inquiéter, et ça va rendre la chose difficile. Premier point, avoir un but, certes, je sais quel est mon chemin, je sais vers où je vais, mais je vais tenter de le mettre entre parenthèses. Deuxième chose, on disait cet officier, pose des objectifs. Et ces objectifs, c'est quoi quand vous voulez? C'est une vitesse, c'est un angle d'approche, c'est un tangage, un roulis, une puissance moteur. Et là encore, il nous disait, attention, un objectif n'est pas quelque chose qu'il faut contrôler, parce que si tu te mets à contrôler ton outil de contrôle, tu risques fort d'amplifier l'erreur et à un moment donné, de ne pas toucher le pont non plus. Et là, il nous disait, la seule chose qu'il va y avoir à faire, c'est bien faire ce que tu fais, ce que tu sais faire. Ce que je vais traduire aujourd'hui en disant, finalement, ça n'est pas tant le travail qui compte pour que j'atteigne mon but, c'est plutôt cette œuvre et certainement cette œuvre commune que je vais développer, qui fait que parce que je me lève le matin et que j'ai envie de faire une œuvre commune avec quelqu'un d'autre pour créer quelque chose de plus grand que moi, je vais avoir un épanouissement professionnel. Et ce plus grand que moi peut tout à fait être un bouchon de bouteille, un stylo, c'est-à-dire en finalité un objet très simple, mais que j'aurais créé avec quelqu'un d'autre. Et cet officier de prendre en vol, pour revenir à lui, maintenant qu'il nous a dit le but est posé, il ne faut pas trop le fixer, les objectifs sont posés, il ne faut pas tenter de les contrôler, ils sont simplement là pour indiquer concentre-toi sur ton action. Il disait ensuite, tu verras que si ton acte est bien fait, si l'acte est beau, l'acte étant beau, les objectifs vont passer au vert, les indicateurs vont aller dans le vert sans que tu tentes de les contrôler, ils viendront simplement dire l'acte était le bon, et si les indicateurs vont au vert, la performance arrivera de surcroît. Le de surcroît, me semble-t-il, dans le Saint-Antoine. Et cette performance de surcroît, c'est finalement ce que nous vivons tous les jours. À aucun moment, nous n'avons contrôle de notre performance. J'ai travaillé avec des équipes de France olympique pour préparer les Jeux olympiques, olympiques et paralympiques. C'est exactement la même chose. Si vous focalisez un athlète sur la médaille d'or, si vous le focalisez sur son but, vous créez ce qui s'est passé pour Marie-Josée Pérec en 2000 à Sydney. Vous faites grimper chez elle une tension extraordinaire, qu'à un moment donné, elle fuit le lieu de compétition parce que la pression devient trop violente.
Oui.
Par contre, si je focalise mon athlète sur bien faire le geste qu'il a acquis comme un artiste, faisant bien son geste, il a de fortes chances d'avoir un bon résultat. Et la prochaine fois qu'il y a des Jeux Olympiques, j'encourage tous les auditeurs à écouter non pas ceux dont on sait qu'ils vont gagner parce qu'ils sont tellement meilleurs que les autres, ça va le faire, mais tous les challengers qui gagnent la médaille d'or, ils vont vous dire la même chose. Ils vont dire, j'ai beaucoup travaillé. Et dans notre histoire de paix économique, il y a bien cette valeur-là, la valeur du travail, la valeur de l'effort, et la valeur de l'effort collectif. Donc il me dit, j'ai beaucoup travaillé, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout, ça veut dire quoi dans ma bouche? Ça veut dire, ben, finalement, je ne visais pas cette médaille d'or, elle n'était pas pour moi, ce n'était pas prévu. J'ai pris beaucoup de plaisir à être aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que dans cet acte, j'ai tenté de le faire au mieux et de prendre plaisir à bien faire ce que je sais faire. Eh bien, dites donc, vous ne me croirez pas, mais je suis surpris de gagner cette médaille d'or. Comme je ne focalisais pas sur ma performance, elle est arrivée de surcroît. Et donc, la notion d'espérance que vous avancez au début, elle est à cet endroit-là. Peut-on redonner dans le monde du travail quelque chose qui permettra aux personnes de se lever le matin, d'aller travailler avec cet autre avec lequel je travaille pour créer quelque chose de plus grand que moi, avec cette intention non pas d'avoir le bénéfice le plus élevé, mais d'avoir fait l'œuvre commune la plus intéressante au profit de la cité.
Eh bien écoutez, je vous propose une petite pause musicale. Nous allons écouter Dire Straits, Walk of Life.
Oh, yeah, the boy can believe.
Aujourd'hui, je reçois donc dans ce parcours de témoin Dominique Steller, qui est professeur de management à l'école de management de Grenoble et directeur de la chaire de la paix économique, mindfulness et bien-être au travail. Dans votre livre « Osons la paix économique », vous donnez des exemples d'entreprises que vous avez, d'une certaine façon, libérées. Je le dis volontairement parce que je pense que vous êtes quand même sur la même ligne que les théoriciens de l'entreprise libérée.
Alors,
vous êtes assez proche.
Il y a de nombreuses choses qui sont très proches. Ce souci de l'humain, ce souci du bien commun, ce souci du travail collectif, tous ces éléments sont très proches. Je vais par contre m'intéresser à un point particulier qu'on a matérialisé, nous, à travers la notion de paix. Il y a là quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, puisqu'on est sur cette radio-là, je vais prendre un point de départ particulier. Ce que je vous ai apporté, ça n'est pas la paix, c'est le glaive. Cette phrase-là m'a marqué depuis que je suis tout petit, parce que je n'étais pas très sûr de ce qu'elle était en train de dire, jusqu'au moment où j'ai compris que ce glaive n'était pas un glaive agressif, c'était un glaive du discernement. Dans la notion d'entreprise libérée, il y a à un moment donné un aplatissement d'une chaîne hiérarchique qui pour moi crée une difficulté qui est la réduction, voire la disparition du sentiment de sécurité, qui est un des sentiments majeurs dont a besoin une personne pour pouvoir à un moment donné devenir créative. Et avec cette notion d'entreprise libérée, nous sommes relativement proches pendant tout un temps de nos débats, jusqu'au moment de cette dimension hiérarchique. Au contraire, dans l'entreprise que j'appelle moi pacifiée, le manager est présent, avec un rôle assez fort. Son premier rôle va être de répondre à trois grands besoins humains. Un besoin de sécurité en premier lieu. J'ai besoin de me sentir sécure pour pouvoir commencer à contribuer. Sinon, comme je suis plutôt une proie en tant qu'être humain, je vais basculer sur du combat ou de la fuite. Je vais agresser ou m'en aller. J'ai un second besoin, qui est un besoin de reconnaissance. Jusque-là, dans l'entreprise libérée, on va retrouver des choses. Mais surtout, j'ai ensuite, grâce à cette sécurité et cette reconnaissance, un besoin de créativité. Pour que tout ça puisse se mettre en place, notre propos à nous est de dire, nous avons besoin de managers forts, solides et capables d'utiliser ce glaive de l'esprit ou ce glaive du discernement. Comment est-ce que je peux, à un moment donné, permettre de créer un cadre de liberté suffisant, mais j'ai bien dit un cadre de liberté. Je suis sûr que si je discutais avec la Gates, il y aurait des endroits où on se retrouverait encore à cet endroit-là, puisqu'il y a beaucoup de projections dans ce qu'est l'entreprise libérée qui n'est pas forcément ce qu'il dit. Mais en tout cas, comment est-ce que je vais pouvoir avoir à côté de moi un manager, quand je suis l'employé, qui sera suffisamment solide pour maintenir un cadre, pour permettre des espaces de liberté et de reconnaissance, et pour m'amener jusqu'à ce moment dans lequel je vais devenir créateur. La raison pour laquelle nous avons intégré la pleine conscience dans cette dimension, finalement ce glaive qui est cité dans le Nouveau Testament, est bien un glaive qui amène à ce discernement. De la même manière que cette notion de pleine conscience, son objet, est bien me permettre de discerner dans ce qui est en train de se passer dans l'instant, ici et maintenant, ce qui pour moi va être une information qui est nécessaire ou non, ce qui pour moi est une information qui me permet de savoir si je suis en train d'imaginer, de projeter ou si c'est bien une réalité, et qui me permettra donc de jouer ce rôle de management, de jouer ce rôle, alors je vais oser quelque chose, mais de jouer ce rôle de celui qui protège. Nous avons lancé il y a une semaine des trophées de la paix économique, pour lesquels, qui auront lieu le 14 mai prochain à Grenoble, pour lesquels nous attendons des candidatures d'entreprises qui ont engagé depuis quelques mois seulement des projets sur ces grands thèmes que nous avons dans notre chaire de recherche, que sont la dimension de l'intime, la dimension managériale et l'impact de l'entreprise dans son environnement sociétal. Et dans ces trois axes, le premier est bien sur cette dimension du discernement, qui dit comment peut-on former nos managers, comment une entreprise développe des programmes de formation à ses managers pour que ces managers deviennent des accompagnants, deviennent des personnes au service, deviennent des personnes capables de discerner entre les besoins réels de l'entreprise, et ça il faut que j'en dise quelques mots après, et des injonctions qui sont des injonctions qui vont détruire. Alors, voilà, ça c'est vraiment un point majeur pour moi entre entreprise libérée et ce qu'on appelle, nous, l'entreprise pacifiée ou des fois l'entreprise florissante. Là, je complique un peu les éléments. Et donc, dans ce... je suis en train de perdre le fil, hein, mais dans...
Donc cette formation des managers, oui. Donc, il y a notamment la formation à la pleine conscience.
Il y a tout à fait la formation à pleine conscience. Elle est un fil rouge, en fait. Elle est un fil rouge parce que vous avez parlé de mes 30 dernières années de vie, à vrai dire, même si je ne suis pas si vieux que ça, je pourrais remonter un tout petit peu avant, puisque ce chemin a démarré pour moi assez tôt. Mon père était très religieux, très pratiquant. Nous sommes catholiques. Il voulait être prêtre avant de rencontrer ma mère, ce qui a transformé certainement sa vie complètement. Il n'empêche que dans ce chemin que j'ai eu à traverser, entre autres avec lui, s'est posé systématiquement pour moi cette question de quel est le plus petit dénominateur commun qui me permette de fonctionner correctement avec l'autre. Et à travailler toutes ces années sur ce petit dénominateur commun, je suis arrivé à ce lieu du discernement, à ce lieu de la pleine conscience, que j'ai retrouvé dans la Bible à travers la citation que je vous donnais tout à l'heure. Et cette notion de pleine conscience, je ne la vois pas, contrairement à beaucoup de mes collègues, comme étant un outil ou comme étant un moyen qui devrait me permettre d'aller bien. Son propos n'est pas de dire « je pratique cette pleine conscience pour développer le bien-être ». Son propos central dans mes yeux est réellement de « je pratique la pleine conscience pour mieux discerner ce qui est en train de se passer pour moi dans cette situation » et ensuite prendre une décision qui sera ajustée au mieux. Si je prends un exemple, je prends l'exemple le plus trivial que j'utilise habituellement, je suis dans une réunion, j'ai quelque chose d'important à dire dans cette réunion. Si je ne pratique pas ou si je ne développe pas cette acuité, je risque fort, s'il y a des gens importants dans la réunion, d'avoir des émotions qui vont être fortes, un cœur qui palpite quand je sens qu'on va bientôt me donner la parole, et tout un ensemble de stratégies internes plus ou moins inconscientes qui vont m'empêcher de dire ce que j'ai réellement à dire. Vous savez, ces moments dans lesquels vous êtes en réunion, et tout à coup, alors qu'on vous donne la parole, et ça fait une demi-heure que vous vous prépariez à dire les choses, parce que vraiment, c'était maintenant qu'il fallait les dire, et au moment où vous avez la parole, vous vous dites « Non, c'est pas aujourd'hui, tais-toi, personne ne va te comprendre. » Et quand vous quittez cette réunion, là, vous devenez très très violent contre vous-même. Cette idée de pleine conscience, c'est comment je vais aller percevoir en moi ces signaux faibles, physiologiques, psychologiques, émotionnels, qui viennent me dire « Attention, est en train de se jouer pour toi quelque chose d'important, et il va falloir... » passer outre, aller au-delà des schémas habituels qui ne sont pas fonctionnels pour pouvoir dire les choses, si je continue sur mon exemple. C'est là qu'est la force de cette pleine conscience. Comment je peux aller au bout de ce que j'ai à apporter dans ma contribution avec ce collectif dans lequel je suis. Et vous entendez bien que dans cet exemple, aussi trivial qu'il soit, ça n'est pas un bien-être immédiat que je vais ressentir. C'est un bien-être par conséquence, encore une fois. C'est parce que je vais détecter mes schémas qui sont dysfonctionnels, c'est parce que j'ai accepté d'aller au-delà et de pouvoir mettre en place quelque chose de différent, en l'occurrence dans mon exemple, cette fois-ci, je vais dire ce qui dysfonctionne pour moi, qu'à long terme, je vais me sentir mieux, non pas parce que la situation sera agréable, mais simplement parce que j'aurai été authentique avec ce qui est en train de se dérouler.
Et donc, dans les entreprises où vous intervenez, hein, puisque vous êtes coach de manager, de dirigeant, vous leur faites pratiquer la méditation de pleine conscience. Et pour leurs salariés aussi, vous développez des programmes de méditation de pleine conscience.
Effectivement, je suis effectivement coach de manager et dirigeant, mais peut-être que je vais parler plutôt de ce qu'on fait ici dans le centre de recherche,
oui,
puisqu'on intervient à trois niveaux. On intervient effectivement dans ce premier niveau qui est la dimension de l'intime, du développement de la personne.
Oui.
Et là, nous avons des partenaires qui mettent en place des projets autour de la pleine conscience. Nous travaillons avec Hewlett-Packard qui a mis en place des projets autour de la pleine conscience, avec Teledyne Devay qui a mis des projets aussi dans ce sens-là, avec d'autres entreprises.
Mais alors, c'est-à-dire Hewlett-Packard, c'est quoi, par exemple? Enfin, de façon très résumée, qu'est-ce qu'ils font avec la pleine conscience?
Alors, ils ont mis en place un programme de développement de manager, développement de leadership et développement managérial sur un apprentissage, un entraînement au long cours de cette pratique de la pleine conscience. Donc, la pratique elle-même, elle est très codifiée aujourd'hui, elle est très simple. C'est une pratique qui se fait assise, en marchant. En fait, vous avez un temps de pratique de pleine conscience. Très souvent, ce sont des temps qui sont orientés sur de la centration de l'attention. Je vais tenter de porter mon attention sur un endroit très spécifique et de maintenir mon attention. Là encore, si je fais une toute petite parenthèse, l'objet n'est pas de devenir un hyper champion en concentration. L'objet est de commencer à être capable de me rendre compte que mon attention va bouger bien plus vite que ne voudrait ma volonté. Et là où j'ai une chance de devenir expert par cet entraînement, c'est de me rendre compte que sans que je le veuille, pendant une réunion, mon attention va partir avec ma femme, avec mes enfants, dans mon travail de demain, dans mes vacances la semaine dernière, et que je n'arrive pas à maintenir cette attention sur le sujet qui est adressé dans la réunion. Donc dans ce programme qui se passe chez Hewlett Packard, les gens vont être entraînés à cette détection. Ça c'est une première phase d'entraînement. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle c'est un temps de partage dans lequel les personnes vont apprendre par partage d'expérience en fait. Mm-hmm. Si je prends un deuxième type d'exemple, là on travaillait sur les personnes. Le deuxième type d'exemple, on va travailler plutôt sur les modèles managériaux. Nous avons une autre entreprise qui s'appelle le groupe Aremont, que peu de gens connaissent d'un point de vue national, qui pourtant est leader mondial des pièces de fixation automobile, un très beau groupe industriel. Dans ce groupe, ils ont décidé, depuis qu'ils sont avec nous, donc depuis le début de l'aventure, de développer un grand programme autour du servant leadership. Le servant leadership, si je redis en français, c'est mettre les gens au service, le leader au service de. Leader ne voulant pas dire uniquement dirigeant, leader voulant dire chacun d'entre nous, à un moment donné, a leadership sur une situation, même si je suis employé ou ouvrier. Et tout ce programme est un programme de formation, de communication d'entreprise, de séminaire d'entreprise qui a intégré des dimensions liées à la pleine conscience, à la communication non violente, au type de personnalité, mais aussi aux process managériaux, mais aussi aux process industriels. Et l'ensemble de ces éléments ont été mis dans un grand module de formation qui d'abord a été suivi par la direction, qui ensuite a été suivi par les 200 top managers du groupe et qui maintenant est sur un déploiement international. Donc, un premier temps de formation qui peut se faire sur l'axe d'intime. Là, j'ai pris un exemple très concret sur l'axe des modèles managériaux et je vais vous donner deux exemples sur notre troisième axe qui est l'axe de l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes. Premier exemple, nous avons un collègue qui travaille sur ce qu'il appelle les achats collaboratifs ou les achats pacifiés. Ça veut dire quoi les achats pacifiés ? Ça veut dire comment est-ce que je peux faire passer mes processus d'achat ou mes acheteurs de cost-killers, c'est-à-dire de gens dont le seul métier a été jusqu'à présent de tirer les prix au plus bas possible au risque de détruire les fournisseurs, ce qui est arrivé très souvent, à des acheteurs qui vont faire rentrer les fournisseurs dans la chaîne de valeur d'entreprise et qui vont tenter de grandir en même temps qu'ils font grandir leurs fournisseurs, qui vont donc en faire de réels partenaires de développement. Deuxième exemple, c'est un exemple qui est, je pense qu'on s'approche en plus du bout, donc celui-ci je voudrais vraiment le partager. Dans cette idée d'épanouissement des parties prenantes, nous allons jusqu'à l'épanouissement du concurrent. L'idée reviendrait, si je le reprends à partir d'un livre qui a été écrit par un collègue, ma maison a d'autant plus de valeur que les maisons de mes voisins sont belles. Si je détruis mon concurrent, si je reste sur un mot que nous avons eu au début de l'émission qui était de dire être numéro un n'est pas une option, c'est la seule option. Mmh. Si nous continuons à avoir un modèle économique qui nous dit continuellement ne valent que ceux qui sont en haut de la pyramide, le seul endroit auquel nous arrivons, c'est de détruire. C'est un regard sur le monde qui dit je ne vais survivre, un regard qui fait peur, et plus j'ai peur, plus je vais combattre, et je ne vais survivre que parce que les autres disparaissent. Vous imaginez bien que c'est pas un endroit vivable. Eh bien, nous avons un dirigeant qui déjà deux fois dans sa vie de dirigeant a fait le choix d'aller sauver un de ses concurrents. Imaginez une entreprise étrangère dont l'un des sites de production est détruit par une coulée de boue dans la montagne. Ce dirigeant français va aller le voir, va lui proposer de l'accompagner et de l'aider à reconstruire. Alors c'est très complexe dans le montage, mais je vais vous en donner une image un peu restreinte. Des lignes de production vont être libérées dans des usines françaises et allemandes de ce dirigeant. La société étrangère va pouvoir envoyer ses ouvriers pour garder ses commandes dans ses lignes de l'entreprise concurrente. Pendant ce temps, on va recréer son site de production. Les ouvriers retourneront dans le site de production une fois qu'il est créé. Les clients n'ont pas été perdus. Et les deux entreprises sont aujourd'hui réellement concurrentes, si je prends l'étymologie de concurrence, c'est-à-dire courir avec et pas courir contre. Le deal principal qui était fait entre ces deux entreprises, en tout cas ce que demandait principalement le dirigeant français, c'était « je vous aide à une condition majeure, c'est arrêtons les coups bas pendant les appels d'offres internationaux. Arrêtons ce qui s'appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire tenter de voler les informations du voisin pour faire une offre meilleure que la sienne, ou tenter de glisser une valise pleine d'argent sous la table. » Voilà vraiment un lieu important qui n'est plus simplement de l'ordre du développement personnel, mais qui répond à la question, quand on évalue une entreprise et qu'on regarde ses bénéfices, peut-on réduire dans ses bénéfices tout ce qui serait maléfique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'au bout du compte, peut-être que ça va être un point assez fort pour terminer, dans notre propos de paix économique, l'objet est bien d'avoir des entreprises compétitives et performantes à long terme. La mission que nous avons définie avec les dirigeants qui financent cette chaire de recherche a décrit la chose suivante. Elle dit « Nous sommes convaincus que le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. » Point. Et pour avoir ce but-là, cette entreprise doit être en santé, en bien-être et en pérennité financière. Notre objet est complètement d'un développement économique, mais cette fois-ci d'un développement harmonieux, qui contribue au bien commun, et pas d'un développement économique qui détruit, qui dégrade, et qui ne profite qu'à certains.
Eh bien, écoutez, vraiment, je vous remercie, et notamment pour votre fin qui illustre bien, qui rassemble bien tous vos propos et votre livre. Donc, je rappelle que vous avez écrit « Osons la paix économique, de la pleine conscience au souci du bien commun ». Vous avez, pour votre chaire, donc c'est la chaire de la paix économique, mindfulness et bien-être au travail. Donc vous avez un site internet qui est assez fourni, que j'ai mentionné sur le site de internet de Fréquence Protestante. Et donc, bien, je vous remercie, Dominique Steller.
Est-ce que vous me permettez deux mots ?
Oui, deux mots.
De trophées. Donc, sur ce site, pour les auditeurs qui seraient intéressés, les dossiers de candidature pour ces trophées de la paix économique sont présents. C'est totalement téléchargeable. Et l'idée est donc de pouvoir présenter un projet en cours qui ensuite sera accompagné pendant 2 ans par des chercheurs pour voir comment la vie se transforme en entreprise à partir de ce projet initial.
Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.